Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui d'un livre, un petit livre d'une centaine de pages qui s'appelle « Élargir les seuils ». Il a été écrit par Jean Prodhomme, un écrivain suisse. Et ce livre est une petite balade à travers les âges de la vie, une méditation sur un petit peu les deux niveaux qui constituent un peu la vie de chacun, c'est-à-dire le niveau, disons, de la vie jaillissante, la vie immédiate, la vie qui nous est donnée, la vie qui nous entoure, les contacts direct et immédiat que l'on peut ressentir avec les êtres et les choses qui nous entourent, et puis le niveau de vie qui est plus celui de la vie raisonnée, la vie chronométrée, la vie organisée. Voilà, et comment ces deux niveaux, en fait, tout au long des âges de la vie, vont soit s'éloigner, soit se rapprocher. Et en tout cas, ils se situent dans une perspective de réconciliation. Réconciliation entre la vie plus raisonnée et la vie plus immédiate qui tient, disons, d'un vivre la vie en contemplation et en poète aussi. Pour cela, Jean Prodhomme commence son récit par un voyage retour aux sources. Il revient dans la Drôme, à Bourdeaux, où, jeune homme, il avait fait une randonnée sur les Trois Becs et il avait rencontré un vieux berger. Et ce vieux berger, il l'avait pris en photo. Et durant les 30 années qui vont suivre, cette photo l'a accompagné partout. Dans ses déménagements, ses voyages, il a toujours eu avec lui le visage de ce vieux berger. Et ce vieux berger, en fait, porte dans son regard un peu la clé de tout le récit. Comment dire l'acuité de son regard et l'étendue qu'il embrasse, qui va bien au-delà de ce qu'il a sous les yeux ? Son visage fait entendre entre triomphe et déroute, sagesse et ignorance, ce qui n'a jamais eu besoin d'être dit et qui n'en finit pas de l'être, l'évidence, le secret à moitié gardé et à moitié divulgué de nos existences. Le vieux berger me répète depuis plus de 30 ans, lèvres closes, par un mystérieux mouvement des yeux du dedans vers le dehors et du dehors vers le dedans, mais aussi de tout son corps, que l'impossible est à portée de main. Que la césure qui nous fait si souvent douter et aller de travers n'est pas tant un empêchement ou une gêne que l'appui à partir duquel il est possible de nous réconcilier avec nous-mêmes, les autres et la terre. Cette césure dont l'auteur parle, c'est justement cette césure entre notre premier contact en arrivant au monde avec de plein pied et de tout notre corps. On ne faisait qu'un avec la première réalité dans laquelle on a été projeté. Et puis, peu à peu, la distanciation qui va s'opérer avec cette réalité. Donc, l'auteur parcourt les différents âges de la vie, notamment d'abord la toute petite enfance, l'enfant qui s'éveille dans son lit en pleine nuit et qui voit les ombres, les lumières, les formes, qui entend les bruits. Et peu à peu, cet enfant va être attiré par un bruit particulier, c'est celui de la langue, des voix des adultes qui l'entourent. Et c'est d'abord par la langue qui va le faire rentrer dans le monde des humains, que cette distanciation avec la réalité dans laquelle il était auparavant de plein pied va commencer à s'effectuer. C'est elle, en effet, la langue qui appelle l'enfant du fond de la nuit. C'est elle qui l'habitera toujours plus familièrement et qui l'affranchira, chemin faisant, de l'immédiat, qui lui permettra de le représenter, de le mesurer et d'agir sur lui. Mais c'est elle aussi, et l'enfant l'ignore, qui creusera dans son dos un abîme toujours plus infranchissable entre les choses et lui, les choses et nous. Donc un double mouvement assez paradoxal, la langue nous éloigne de le contact immédiat avec le monde qui nous entoure, en établissant une distanciation, et en même temps, c'est grâce à elle qu'on va pouvoir de nouveau s'en approcher, surtout par l'écriture poétique. L'auteur continue sa balade à travers les âges de la vie, en passant par l'enfance. Alors l'enfance, c'est-à-dire cette période préscolaire. Et surtout pour lui, à son époque, dans les années 50, il n'est pas allé à l'école maternelle. Donc c'est toutes les années qui correspondent à l'avant-entrée au primaire. À cette époque-là, donc, ils vivaient dans un quartier et se réunissaient en bandes d'enfants et passaient leurs journées à explorer, à construire des cabanes, à établir des plans, à jouer, de tout leur être. Nous avons été les champions de l'immanence. Exister et connaître ne faisait qu'un. Chercher et trouver étaient simultanés. Rien non plus ne distinguait nos actions de nos réactions, nos questions de nos réponses. Si je dis nous, c'est parce que nous avons tous eu, je crois, la même enfance. En vérité, nous n'étions dépositaires de rien, sinon de nos vies. Donc, cette enfance encore, voilà, on se souvient tous de nos jeux éperdus, de nos courses, de ces jeux de cache-cache dans lesquels on jouait littéralement nos vies. Et l'auteur se questionne, mais que s'est-il donc passé pour qu'un jour, tout bascule et que la division fasse partie de nos vies? Première étape pour le petit enfant, c'était l'entrée dans la langue. Et pour l'enfant un peu plus âgé, c'est l'entrée à l'école. Mais les rythmes et les délais que la vie scolaire nous a imposés ont pris le dessus. Nous avons dû nous plier chaque jour davantage à la discipline, au classement et à la concordance des temps. On s'est mis à croire, nous aussi, que nos vies et le monde avec lequel elles se confondaient jusque-là étaient d'une nature différente, que les choses étaient d'un côté et nous, de l'autre. Il faut dire que l'école avait su nous donner accès à de nouveaux continents et substituer aux liens vivants qui nous attachaient aux choses un enchaînement de raisons et de conditions qui nous en ont détachés. L'ici a fait sécession et nous avons reporté le maintenant à des jours meilleurs. Il y eut indéniablement une lente dislocation de notre être au monde, une cassure qui a conduit certains d'entre nous à le disqualifier et, en guise de consolation, à espérer que ce que nous avions perdu nous reviendrait un jour autrement, ailleurs. Entrer dans le temps scolaire, le temps morcelé, la distance aux choses, c'est-à-dire on va passer du temps à parler et nommer sur du papier les montagnes, les rivières, mais sans n'avoir plus aucun contact direct avec elles. Et pourtant, tout ce vocabulaire et cette culture est aussi importante et nécessaire pour le chemin de l'homme à venir. Mais ce livre étant placé sous le signe de la réconciliation, cette insouciance, cette vie immédiate et directe ne disparaît pas. Elle reste toujours en soubassement de nos vies à chacun et elle affleure de temps en temps, dans certains moments un petit peu hors du temps. L'auteur passe après sur sa période d'adolescence, de grands adolescents et puis d'étudiants, et relate une expérience douloureuse qui lui est arrivée. Et, il était en état un petit peu de surmenage intellectuel, plongé dans des études intenses, manque de sommeil. Et voilà qu'un beau jour, une belle matinée de mai 1980, il ouvre les pages de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et ces premières pages qui mettent à distance justement toute immédiateté, tout imprévu, qui remplacent les êtres et les choses par les mots, va le couper, littéralement le couper, de toute la vie qui l'entoure. Et il va rentrer pendant des mois dans une nuit qu'on appellerait aujourd'hui une profonde dépression. Et il résume cette expérience en disant que, croyant avoir pu se passer de la vie alentour et des êtres et des choses, par mesure de rétorsion, celles-ci lui ont tourné le dos. Expérience cuisante, mais dont il va sortir peu à peu, grâce à justement ces moments privilégiés de ce qu'on appellerait aujourd'hui de reconnexion, ces affleurements qui nous arrivent à tous dans nos vies et qui vont peu à peu le relier de nouveau avec le monde vivant. Puis il a mené une carrière d'enseignant, en lien avec des adolescents auxquels il a été attentif aussi dans leur aube intellectuelle. Et puis, le moment où il écrit ce livre, il est déjà à la retraite, il a une soixantaine d'années. Et sa vie, en fait, il perçoit un peu sa vie comme une boucle. C'est-à-dire qu'il va rester volontairement un état de disponibilité et de vacances qui va lui permettre de se reconnecter justement à cette vie vibrante et immédiate que tout petit enfant il avait connue. C'est elle, cette indétermination qui me conduit par intermittence à ce bonheur d'état et d'équilibre qui constitue, je le crois avec d'autres, l'expérience la plus dense et la plus singulière que nous sommes amenés à vivre. Pure sensation d'exister élargie à l'univers entier. Purs instants de félicité, de présence et de conscience qui nous ramènent au temps des commencements, à ces petits matins où celui que nous étions n'était pas encore, à peine ou déjà plus. Ainsi, cet état de vacances et de disponibilité, en dehors de préoccupations quotidiennes et ordinaires, nous permet de nous relier à ce fond de l'être, en fait, qui fait le fond de nos vies à tous, et qui finalement se retrouve à un âge où on sort un petit peu de la vie courante et affairée, pour retrouver, c'est ce qu'on remarque souvent chez les personnes âgées, pour retrouver un certain esprit d'enfance, une disponibilité aux choses et aux événements et aux imprévus. S'il nous faut beaucoup d'années pour ne plus consacrer nos heures à l'exercice exclusif de la raison et de la preuve, il nous en faut plus encore pour accepter l'insensé, le ciel et les rivières, l'éphémère, le jeu de l'éveil et du déclin, de la tension et du relâchement, de la vie et de la mort, et de nous en satisfaire.